Et une nouvelle édition de l'économie en question. Nous parlons ce matin du destin de notre monnaie unique et commune pour 11 pays européens depuis le 1er janvier 1999 et dans nos poches et nos portefeuilles depuis le 1er janvier 2002. On se souvient de l'enthousiasme des succès annoncés à l'époque, 15 ans donc, et un anniversaire plutôt discret, il faut bien le constater. C'est que la période n'a pas été aussi paisible qu'espérait par les promoteurs de l'euro. Monnaie confrontée donc aux contraintes, aux difficultés de fonctionnement de l'Union monétaire, au chômage persistant, très pesant sur le pouvoir d'achat des ménages, à la crise financière bien sûr, à partir de 2008, à la crise grecque. Et elle n'est pas terminée, enfin au choix du Royaume-Uni, grand partenaire de la zone euro, choix pour la sortie de l'Union. Et c'est ainsi que des interrogations, assez tôt d'ailleurs, ont commencé à poindre sur la pertinence de la monnaie européenne. Interrogations relayées. Chez les politiques, bien sûr par les eurosceptiques, la campagne présidentielle en France est là pour nous le rappeler, mais aussi par beaucoup d'observateurs. Certes, l'euro n'est pas mort, mais il ne se porte pas très bien. Et franchement, qui parmi ces promoteurs en l'an 2000, ou parmi les économistes qui sont souvent venus nous trouver ici, aurait pu penser qu'il serait si critiqué après 15 ans pour notre modeste part, en tout cas l'économie en question. Nous n'imaginions pas que nous aurions à vous proposer ce titre « L'euro peut-il disparaître ?» Et nous en parlons avec Patrick Artus, chef économique de Natixis, professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et auteur, nous sommes déjà tout de suite direct dans le sujet, de Euro par ici, la sortie, il y a quand même un point d'interrogation. Jérôme Krill, directeur du département des études à l'Observatoire français des conjonctures économiques de l'OFCE, qui fait paraître lui aussi un ouvrage sur l'économie qu'il dirige, sur l'économie européenne à l'horizon 2017, un peu après. Et enfin, Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université Paris 13, membre des économistes atterrés. Et puis en toute fin de programme, nous aurons la chronique de Claire Allais, la première journaliste à Alternative Économique, la première à nous donner un chiffre. Nous aurons aussi le temps, je l'espère, de demander le leur à nos trois invités. C'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et bienvenue à tous. Commençons par cette première réflexion. Je l'ai dit, c'est vrai, j'avais le sentiment qu'il était encore impensable il y a quelques temps, quelques mois, peut-être quelques années, mais je dirais même quelques mois, de parler de ce sujet de cette manière. L'euro aura-t-il une fin ? Alors quand même, supprimons tout de suite le suspense, y compris dans le livre de Patrick Artus. La réponse est non, il vaudrait mieux pas le supprimer, nous allons savoir pourquoi. Mais vous attendiez-vous quand même à cette dégringolade de la perception de la monnaie unique, Jérôme Krill?
Je crois qu'il faut quand même commencer par rappeler que lors de la création de cette monnaie unique, un certain nombre de critères qui avaient prévalu à son adoption avaient été très critiqués, et c'était des critères de finances publiques. Beaucoup se posaient la question de savoir à quoi ça servait d'avoir ces critères de finances publiques qui étaient totalement homogènes entre des pays différents, associés à des critères qui étaient des critères qu'on a qualifiés, nous, économistes, de nominaux, et qui se souciaient pas du tout de voir converger les marchés du travail des différents États membres avant qu'ils adoptent la même monnaie. Donc il y avait quand même des critiques. L'euro est né, l'euro a plutôt commencé d'être un succès parce que il a certainement apporté des avantages qui sont indéniables, comme beaucoup de transactions entre les États membres, certainement une accélération de la financiarisation qui était vue par beaucoup comme un avantage et dont on a fini par comprendre qu'elle était plutôt un désavantage pour la zone euro. Et du coup, progressivement et avec la crise financière internationale, il était certain qu'on allait pouvoir discuter des avantages et des inconvénients de l'euro, mais moins certain qu'on allait parler de sa disparition.
En effet, Benjamin Coriat puis Patrick Artus.
Écoutez, oui,
une surprise
une surprise et pas une surprise. Voilà. Alors, pas une surprise, pourquoi ? Après, très brièvement, une surprise. Pas une surprise, pourquoi ? Parce qu'avec le recul du temps, on s'est rendu compte que la constitution de l'euro était totalement défaillante, qu'il y avait un vice fondamental de construction. Alors, le vice fondamental de construction, c'est quoi ? C'est le concept allemand, d'ailleurs, de l'Europe, à savoir la notion de communauté de stabilité budgétaire. C'est-à-dire faire en sorte que on fasse une monnaie unique en rejetant les conditions d'existence de la monnaie unique sur l'équilibre dans chacun des États nationaux. 3%, 60%, etc. Et les vraies conditions de la monnaie unique, ça peut pas être ça, évidemment. On peut pas dire, pour que le Minnesota bénéficie du dollar, il faut que le Minnesota fasse 3%, 60%. C'est pas possible. Les vraies conditions de la monnaie unique, c'est-à-dire un minimum de budget, donc qui permet de, une politique.
Et là, vous êtes déjà dans le débat. Moi, je parlais de la surprise avant.
Alors,
s'il vous plaît.
Donc, c'est pas une surprise. Voilà, c'est pas une surprise parce que les conditions de construction
n'étaient pas
ne
réunies.
Sont pas les bonnes. Surprise.
Mais je me rappelle pas l'avoir tellement entendu chez les uns et les autres. Hein. C'est pas une critique que je vous fais.
Ça fait un moment qu'on le dit.
Ah, je la tête tous les trois.
Ça fait un moment qu'on le dit. Ça fait un moment. Alors, surprise dans la mesure où ceci est sur la table depuis longtemps et il ne se passe rien. C'est-à-dire que on va même dans un sens d'accélérer cette notion de constituer les conditions d'existence dans chacun des États à travers des choses comme le mécanisme européen de stabilité, les plans d'austérité qui sont imposés. Donc au lieu d'aller dans la bonne direction, on va dans la mauvaise. Donc effectivement, on va vers l'explosion.
Patrick Artus, enfin, très sévère dès le début de l'ouvrage dont je parlais, écrit avec Marie-Paul Virard, sur les dysfonctionnements déjà de l'Union monétaire.
Oui, mais
plus que sur l'austérité d'ailleurs.
Ouais, j'appelle pas ça austérité,
politique,
mais peut-être qu'on se rejoint en appelant les choses différemment. Non, mais je crois quand même il y a très longtemps que les économistes disent ce que vient dire Benjamin, c'est-à-dire qu'il y a eu un défaut de réflexion quand on a fait l'euro sur ce qui doit accompagner une monnaie unique. Paul Krugman avait écrit au milieu des années 90 des choses tout à fait pertinentes sur ces
les
questions.
Les Américains, en général.
Y a prix Nobel d'économie
de Krugman
et un autre, Stiglitz, oui. Plus récemment, vient d'être très sévère pour l'euro.
Oui, mais Krugman, en 90, écrit un papier extraordinaire qui s'appelle « Les leçons du Massachusetts pour l'Europe », qui est un papier qui raconte toute l'histoire, quoi. Donc il y a quand même 25 ans. Non, mais il y a quatre choses qui vont pas, pour aller vite pour nos auditeurs. Un, on coordonne pas ce qui devrait être coordonné. Et on faut coordonner les politiques qui ont des effets négatifs sur les autres. Si tout le monde se met à baisser ses salaires, on va finir très très pauvre, sans aucun avantage pour personne. Deux, il n'y a plus de mobilité des capitaux entre les pays. Les Allemands prêtent plus aux autres. On fait une union monétaire pour que les capitaux circulent. S'ils circulent pas, c'est pas la peine de faire une union monétaire. Trois, alors c'est ce que dit Benjamin autrement, moi j'appelle pas ça austérité, je dis les ajustements sont asymétriques. C'est-à-dire ceux qui vont mal doivent mener des politiques restrictives et ceux qui vont bien ne mènent pas de politique expansionniste. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut appeler l'austérité, c'est que les ajustements sont à la charge de ceux qui vont mal. Rappelez-vous que c'est ça qui a fait sauter le système monétaire européen en 1992, hein, que ceux qui devaient défendre leur monnaie devaient mener des politiques restrictives et que les Allemands n'empêchaient pas leur monnaie de montée. On est exactement dans la même configuration.
C'est pas tout à fait,
et quatre, alors ça c'était Krugman, une union monétaire, ça rend les régions hétérogènes parce qu'on se met à fabriquer des biens différents et donc il faut du fédéralisme. Donc il faut un budget commun, il faut des transferts, sinon les plus pauvres vont être de plus en plus pauvres. Quoi. Donc il y a quatre trucs qui vont pas, c'est massivement grave. Hein, et donc si on s'arrêtait là dans notre débat, on dirait bon, bah, le truc est mal conçu, donc on sort et on fait autre chose. Quoi, parce que c'est vraiment très très grave ces gâteaux. Ouais.
Et problème, faire autre chose, on va le voir dans un instant, pas simple non plus. Prenons l'actualité hein, de la Grèce, c'était ce lundi, nouvelle réunion, Alexis Tsipras qui défend l'accord qu'il a conclu d'ailleurs, il y a eu un accord avec ses créanciers en vue de déblocage d'une nouvelle tranche d'aide. C'est très compliqué encore pour la Grèce. La Grèce qui a failli, on le rappelle, en 2015, quitter la zone euro. Pour vous, illustration majeure de ce que vient de dire, entre autres, Patrick Artus, Jérôme Kriel ou Benjamin Coriat.
Oui, moi je veux bien commencer.
Que va-t-il se passer pour la Grèce maintenant ?
Ce troisième mémorandum, comme d'ailleurs les précédents, alors là, vous ne nous reprocherez pas de ne pas avoir dit que...
Non, la Grèce, nous l'avons souvent.
Voilà, qu'ils étaient absolument conçus la tête à l'envers. Alors... C'est vrai que ça peut illustrer ce que dit Patrick.
Parce
que qu'est-ce qu'on exige de la Grèce ? Aujourd'hui, ils sont à 1,5 d'excédent budgétaire et on leur demande 3,5 pour 2017. C'est une folie furieuse dans un pays qui a perdu un quart de son PIB. Alors on va pas recommencer tous les malheurs qu'on a fait subir à la Grèce. La solution, c'est de dire non seulement l'équilibre, mais 3,5 d'excédent budgétaire parce que la priorité des priorités, c'est de payer les prêteurs. Bon, clairement, si...
On le rappelle en juillet, un remboursement d'un crédit de 7 milliards d'euros, même un peu plus.
Clairement, donc si en plus l'Europe, sur cette question, se conduit spécialement mal parce qu'elle ne tient même pas ses engagements. Ça veut dire que le mémorandum qui a été signé, qui est déjà une catastrophe, elle renforce aujourd'hui, elle veut renforcer les conditions d'application du mémorandum qu'elle avait pourtant signé. En l'occurrence, elle demande des clauses automatiques de coupe si on n'est pas à 3,5 d'excédent budgétaire. On est en pleine folie. Donc, si l'euro, c'est ça, il est évident que les peuples y mettront fin.
L'euro n'est pas le même pour tout le monde, donc.
Certainement, mais
c'est un peu le problème.
Moi, je voudrais revenir quand même rapidement sur le cas grec, qui est un cas exceptionnel. Je pense qu'on peut pas tourner toujours sur la Grèce. Vous disiez, Benjamin, qu'il n'avait que l'Europe. Respectait pas un certain nombre de ses engagements. La Grèce n'a jamais respecté ses engagements.
Non, c'est pas tout à fait vrai.
Je pense qu'ils n'ont jamais respecté les engagements budgétaires. Ils ont triché sur leurs autorités, ont triché sur leurs finances publiques. Donc c'est un pays qui est une exception. J'ai beaucoup d'amitié pour de nombreux Grecs et j'aime y aller pour discuter avec mes collègues de l'université d'Athènes. Mais il est indéniable que c'est un cas particulier et que ce cas particulier, on aurait pu le régler entre nous, sans provoquer cette crise. Il aurait suffi que les Allemands commencent par dire « on va vous aider oui. » et ensuite on va changer le mode de gestion de votre économie pour que ça ne se reproduise jamais, pour qu'on ne parle plus de la Grèce, sur que ça, les Grecs soient très heureux aujourd'hui. Donc je pense que ce qui est plus grave dans la situation actuelle, c'est ces divergences qu'il y a entre les pays comme l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne et l'Autriche.
Et l'Allemagne donc, là, que vous avez déjà cité,
voilà,
tous
et qui
les
rend
trois.
Difficile la gestion de l'euro, à moins qu'on soit capable d'avoir des modifications de notre gouvernance.
Arrêtons-nous sur le cas de l'Allemagne, justement. Le livre de Patrick Artus y consacre plusieurs pages. Vous aussi, d'ailleurs, Jérôme Krill, dans votre dernier ouvrage. L'Allemagne, l'euro et l'Allemagne, évidemment, il y a d'abord une fronde de beaucoup d'économistes contre cette politique, cette attitude. L'Allemagne, dont nous dit Xavier Timbaud, qu'on connaît bien ici, l'OFCE aussi, elle a beaucoup à perdre, elle aussi, en cas de disparition de l'euro. Donc, pourquoi applique-t-elle cette politique qui est un risque d'éclatement, Patrick Artus?
Oui, je crois qu'il faut être un peu prudent sur ce qu'on dit sur l'Allemagne.
Revenons sur sa politique, d'abord.
La critique de l'Allemagne, elle est assez simple. C'est de dire, dans une situation de croissance faible dans la zone euro et d'excédent d'épargne, puisque nous avons un excédent extérieur, les Allemands ont 8 points de PIB d'excédent extérieur, ça veut dire ont 8 points de PIB d'épargne qu'ils n'utilisent pas chez eux, et ont un excédent budgétaire.
8,7 d'ailleurs,
Les chiffres sont... 8 points, c'est le quatrième trimestre sur l'année.
En tout cas, ils investissent peu chez eux, c'est connu.
Alors, je crois qu'il faut faire un peu attention après à ce qu'on dit, parce que la critique habituelle consiste à dire aux Allemands, soyez gentils, faites des déficits publics, relancez votre économie. Les Allemands ne le feront pas. Parce qu'ils n'en ont aucun besoin.
Ils sont riches,
vieux, et ils ont peur du vieillissement. Et donc, ils ne le feront pas. Donc, la chose intelligente, c'est mon premier point de tout à l'heure. C'est de dire, ce qui a changé, c'est que dans les 10 premières années de l'euro, les Allemands ont prêté leur excédent d'épargne aux autres Européens. Donc, c'est pas très grave que les Allemands aient des excédents. Si ces excédents financent des investissements dans le reste de l'Europe, c'est pas un problème. Les Allemands n'ont pas envie de faire des investissements chez eux. Bah, très bien, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est beaucoup plus grave. C'est que les Allemands prêtent leur excédent d'épargne au reste du monde en dehors de l'Europe. C'est pour ça que la zone euro elle-même a un excédent extérieur. Et ça tue la croissance, puisque l'épargne des Allemands finance des investissements en Chine, pour faire simple. C'est pas vrai, d'ailleurs, en Europe centrale. Pardon. Et donc, le problème, c'est bien la mobilité des capitaux. C'est qu'il faut recréer les conditions qui font que nous pouvons aller prendre l'épargne des Allemands pour faire des investissements dans le reste de l'Europe. Et là, il faut pas non plus mettre tout le blâme sur l'Allemagne. Pourquoi les Allemands ont arrêté de prêter au reste de l'Europe? C'est que quand on leur a pris leur épargne jusqu'à la crise, on a fait des bulles immobilières à peu près partout, on a prêté à des gens qui n'ont pas remboursé, on a fait des crises bancaires. Donc les Allemands se disent, oula,
ces gens-là,
ils sont pas sérieux, ils font des projets d'investissement ridicules, ils sont pas solvables, donc on va plus prêter à l'Europe. Donc il faut quand même y aller des deux côtés. Donc il faut expliquer aux Allemands qu'il faut qu'ils ramènent leur épargne vers l'Europe. Il y a un mécanisme qu'il fait qui s'appelle le plan Juncker. Et puis, il faut que nous, on inspire confiance aux Allemands. Donc, il ne faut pas croire qu'en faisant n'importe quoi avec nos finances publiques, on ramènera l'épargne des Allemands dans le reste de l'Europe.
On a en tête les programmes économiques, pour ceux d'entre nous qui les ont étudiés pour ces présidentielles, dans ce que vous venez de dire, notamment, rester ou pas dans les clous. Jérôme Krill.
Alors moi, je voulais peut-être rebondir sur ce que disait Patrick, à savoir que il faut pas qu'on oublie quand même dans cette discussion que les institutions qui gèrent l'euro ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Et c'est presque un paradoxe que de discuter de la disparition de l'euro alors même que l'institution qui le crée n'a jamais été aussi progressiste dans l'histoire de l'histoire récente de l'euro, qui est de 18 ans, il est adulte cet euro, mais il bénéficie d'un banquier central qui crée de la liquidité tous azimuts, qui peut poser quelques quelques autres questions, mais qui est menée de telle sorte à renforcer l'existence et la survie de l'euro, la lui permettre, et en même temps que les Européens en 2011 se sont rendus compte qu'une des raisons pour lesquelles la crise s'était installée en Europe n'est pas due exclusivement aux questions de finances publiques, mais aussi au déséquilibre économique dont parlait Patrick, à savoir les excédents d'épargne des uns, les déficits d'épargne des autres. Et que dès lors, on a créé une sorte, ce qu'on appelle un tableau de bord, qui vise à mieux contrôler ces déséquilibres, mais le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'instrument contraignant pour faire respecter ces déséquilibres. Donc, on sait qu'ils existent. La Commission fait son travail pour dire l'Allemagne a trop d'excédents, l'Espagne a amélioré ses déficits, elle est en excédent, c'est bien, vous avez une bonne note. Ce qu'il nous faudrait, c'est nous assurer qu'on a un mécanisme qui va renforcer la convergence entre les États membres par des politiques qui pourraient être des politiques sociales, des politiques sur les marchés du travail. On a toute une boîte à outils aujourd'hui qui est en discussion, mais qui n'est pas appliquée. Et l'Europe a progressé.
Est-ce que ça ne pourrait pas passer aussi par davantage de solidarité ou d'union entre les pays du Sud ? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un axe un peu plus Italie, France, Espagne, face à l'Allemagne dont vous venez de parler les uns les autres ? Non, je vois Patrick que Arthus, pas forcément...
Non, mais je crois...
Ça fait partie des hypothèses avancées, non ? Je ne sais pas.
Non, mais honnêtement...
Soutenir ces pays davantage ?
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Macron sur le sujet. Je ne voudrais pas dire ça dans un studio, mais... Que honnêtement, nous ne gagnerons rien dans une logique de conflit avec l'Allemagne. Je crois que les Allemands se feront imposer rien. Donc l'idée répandue qui est qu'on va aller à Berlin après l'élection présidentielle en France tout seul ou avec les Italiens, etc., et qu'on va taper sur la table, ça ne produira absolument rien. La seule solution, je crois, c'est d'essayer de négocier avec les Allemands un compromis qui est qu'effectivement eux acceptent de faire beaucoup plus de financement à l'intérieur de l'Europe, mais que nous respectons nos engagements. Je crois qu'il faut comprendre le fonctionnement des Allemands. Quand les Allemands ont en face d'eux quelqu'un qui prend des engagements et qui ne les respecte pas, ils perdent complètement confiance. Et comme ils perdent complètement confiance, ils prêtent pas. Donc il faut aussi rétablir la confiance des Allemands dans le reste de l'Europe.
Benjamin Coriat, et puis ensuite, dites-nous ce qui arriverait si l'euro... réellement disparaissait, on veut le savoir.
Oui, plusieurs choses. Non, c'est pour relever ce que disait tout à l'heure Patrick Arthus, avec lequel je pense que j'ai un désaccord, quand il disait le problème, c'est qu'il faut rétablir la mobilité des capitaux. Mais elle est parfaite, la mobilité des capitaux. Elle est parfaite. C'est exactement la raison pour laquelle les capitaux allemands vont se placer en Chine ou ailleurs.
Parfaite à l'intérieur.
Non. Elle est, le problème, c'est pas de rétablir la circulation des capitaux. Le problème, c'est de la réguler et de faire en sorte que effectivement l'excédent d'épargne européen revienne au moins pour partie à l'Europe.
Et ça le dirige ailleurs.
Évidemment, et ça se fera pas naturellement, parce que le libre fonctionnement des marchés, qui est celui dans lequel on est aujourd'hui, conduit justement au fait que l'excédent d'épargne, personne n'en bénéficie. Bon, alors, il faudra toucher à la réglementation concernant la circulation des capitaux,
si vous faites ça, les Allemands quitteront l'euro pour pas voir ça. Hein. Donc cette proposition n'a aucun sens.
Mais bien sûr qu'elle a du sens. Bien sûr qu'elle a du sens, parce que les Allemands tirent un ensemble de bénéfices de l'euro, et ils le savent parfaitement bien. Et donc, il faut qu'ils acceptent un tout petit peu d'en payer le prix. Donc, s'ils veulent prendre le risque d'affronter tout seuls l'économie mondiale, qu'ils y aillent. Je pense qu'ils n'iront pas, parce qu'ils savent très bien les bénéfices qu'ils en tirent. Donc, simplement pour dire que, oui, effectivement, il faut négocier avec l'Allemagne, mais c'est vrai que pour pouvoir négocier avec l'Allemagne, il faut créer un minimum de rapport de force. Alors, il y a des choses qu'ils peuvent entendre. Je pense que l'harmonisation fiscale, ils peuvent l'entendre. Parce que, en tout cas, aller vers de l'harmonisation fiscale. Parce que ils subissent eux-mêmes, on l'a bien vu, hein, ils ont été très vigilants sur les listes de fuite de capitaux. Ils ont exigé que ça revienne chez eux. Donc ça, ils peuvent l'entendre. Et sur l'harmonisation sociale, qui est l'autre grande harmonisation à faire, bah, ma foi, ils ont quand même fait des grands progrès en instaurant un salaire minimum. Et la future grande coalition dans laquelle les sociodémocrates seront renforcés sera ouverte à ça.
Hypothèse, l'euro disparaît, peut-être pour les raisons que vous venez de dire, Patrick Arthus, si l'Allemagne n'accepte pas ces conditions ou d'autres raisons. L'OFCE s'est livré à un petit examen de ça, parmi d'autres. Hein. Vous êtes plusieurs à vous poser, évidemment, cette hypothèse qui impliquerait, évidemment, la fin de la BCE, hein, plus de Banque Centrale Européenne, retour aux banques centrales nationales et les difficultés qu'elles rencontreraient. À l'OFCE, on a établi deux scénarios, sortie d'un seul pays ou éclatement complet. C'est un blog de l'OFCE, vous ne l'avez pas vu, Jérôme Krill?
C'est
pas grave, c'est
un blog qui date de quand? C'est un blog qui date
Il est assez récent, je suis allé le retrouver sur les, blogs.
Il y a deux ans.
Peut-être un peu plus ancien que ces deux derniers jours.
C'était un poste...
Mais c'était très intéressant parce que, enfin, vous allez nous le dire.
Oui, oui, c'était forcément un poste très intéressant puisque c'est mes collègues de l'OFCE qui l'ont préparé et rédigé. Leur perspective à ce moment-là, c'était celle d'un Grexit.
C'était pas celle
d'un éclatement total de la zone euro.
Oui. Et donc, il y avait un scénario d'éclatement complet.
Absolument. Mais je crois me souvenir, et je pense que je m'arrêterai là sur le commentaire, qu'il était fait mention de la très grande incertitude qu'il y avait sur les évaluations que mes collègues avaient réalisées et dont ils souhaitaient bien montrer qu'elle était totale. Et ils voulaient être très transparents là-dessus. Donc, je ne me souviens pas des chiffres où vous les avez lus hier. Donc, peut-être les avez-vous en mémoire. Mais je crois que quand on voit un institut, c'était le cas de mes collègues de l'OFCE, mais quand on voit l'Institut Montaigne qui s'empare de la question de la sortie de l'euro et qui arrive à trouver des chiffres qui sont d'une précision diabolique, je trouve ça, moi, extrêmement compliqué à gérer.
Je trouve ça
extrêmement dangereux.
Et c'est ce que je retiens de cette étude à laquelle je faisais allusion.
Je préfère vous dire que, en tant qu'économiste, je ne sais pas ce qui se passerait en cas d'éclatement de la zone euro.
Patrick Artus, vous le savez ?
On ne sait pas le chiffrer, mais qualitativement. Je crois que quand vous êtes en face de quelqu'un qui propose de sortir de l'euro, il faut lui poser un petit nombre de questions. La première question, c'est quels seraient les taux d'intérêt que paierait la France si elle n'était pas dans l'euro ? Alors la seule référence historique que nous avons, c'est les années 80, puisqu'après on est rentré dans des systèmes de change fixe. Dans les années 80, si on compare et on fait quelques corrections, parce que les choses, la France payait à peu près 3% de plus que l'Allemagne. Aujourd'hui, on paye moins de 1% de plus que l'Allemagne. Hein, donc, et ceci veut dire que tous les Français qui nous écoutent et qui ont par exemple un contrat d'assurance vie feraient des pertes considérables sur leur contrat d'assurance vie à cause de la remontée des taux d'intérêt. Donc, est-ce que ceux qui veulent qu'on sorte de l'euro assument de ruiner les Français qui ont de l'assurance vie? Et la seconde question qui fait l'objet d'un débat absolument terrifiant partout, c'est la question des dettes. Les dettes sont en euros, elles ne sont pas en francs.
C'est le point.
Et alors, on peut débattre jusqu'à la fin des temps. La seule vérité est la suivante. On peut restructurer ses dettes, c'est-à-dire rembourser moins que ce qui était prévu, à condition de le négocier avec les prêteurs et d'avoir une majorité de prêteurs qui soient d'accord. Si vous payez moins, si vous réduisez la valeur de votre dette de façon unilatérale et non négociée, ça s'appelle un défaut. Tous les tribunaux et toutes les agences de rating diront que vous êtes en défaut. Toutes vos dettes sont immédiatement exigibles et vous allez avoir des centaines de problèmes en justice. On va vous saisir vos biens. Donc, en réalité, malheureusement, la seule raison pour laquelle on ne peut pas sortir de l'euro, c'est pas une raison glorieuse, c'est que si on sort de l'euro, on est ruiné parce que nos dettes sont en euros. Donc, c'est pas formidable comme raison.
Et
mais
quand
c'est
vous
une
dites
raison,
nous, ça concerne tous les pays européens.
Ça concerne tous les pays européens. Alors, les Allemands, c'est dans l'autre sens. Eux, ils ont prêté des euros. Donc, s'ils sortent et qu'ils réévaluent, ils se ruinent parce que les euros vendront moins pour les Allemands. Donc, les Allemands non plus, ils peuvent pas sortir par le haut non plus.
Donc condamné à rester dans l'euro, c'est comme ça que nous allons conclure.
Mais tout ce discours fait passer la sortie de l'euro pour un véritable cauchemar, hein, je crois, à t'entendre. Mais moi j'ai envie d'insister sur le fait que l'euro a peut-être pas tant de défauts que ça. Enfin, je veux dire, on peut peut-être aussi le défendre. Est-ce que vraiment c'est à cause de l'euro qu'on est dans la situation dans laquelle on est? Est-ce que c'est à cause de l'euro qu'on a un taux de chômage de masse en France depuis le début des années 80? Bah avant, dans les années 80, on n'avait pas l'euro et puis on a continué d'avoir beaucoup de chômage.
En commençant,
oui, donc je pense que ce qui est crucial à dire aux auditeurs, c'est que cette monnaie unique n'a certainement pas que des désavantages. Imaginons qu'on sorte.
Mais on aimerait vous entendre dire qu'elle a des avantages.
Mais quels sont les avantages?
la
stabilité des prix est très favorable au pouvoir d'achat. Toute chose égale par ailleurs. Le problème, c'est si on se lance dans des politiques d'austérité sur les salaires, le pouvoir d'achat, il décline. Mais il décline pas parce qu'il y a plus d'inflation, il décline parce qu'on distribue moins de salaires. Il n'est pas impossible de distribuer plus de salaires dans une union monétaire. Oui. C'est pas impossible. Donc l'euro n'est pas fautif de tout.
Ébauche de solution. Merci Jérôme Krill, Benjamin Coriat.
C'est pas impossible, alors faisons-le. Et on voit bien à quels obstacles on se rencontre. Mais moi, je ne peux pas laisser dire que l'Europe n'est pour rien dans le fait qu'on a l'euro n'est pour rien dans le fait qu'on a 25% de chômage en Grèce, qu'on a 20% de chômage en Espagne, 15 ou 18 au Portugal. L'euro y est pour quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sinon, on ne serait pas réunis ici. Bon, d'une manière.
Sauf que la baisse des taux de chômage en Espagne, elle est liée à l'Europe.
Et non,
c'est
pas
grâce
du tout.
À l'Europe qu'ils ont baissé leur taux de chômage avant la crise financière.
Mais personne ne peut dire ça. C'est pas la même période. C'est pas la même période. C'est plus du tout la même période. Et regardez l'ensemble des pays qui ont leur souveraineté monétaire, l'Angleterre, les États-Unis, gagner de ça, ils s'en sont tirés infiniment mieux. Il n'y a même pas de discussion là-dessus.
Une solution, Patrick Artus, une seule, tout changer, pas facile, mais un budget commun, plus intelligent.
Non, mais il faut faire des choses pragmatiques et acceptables.
Vous poursuivrez après l'émission,
désolé. On peut tous écrire qu'on a besoin d'un budget fédéral qui fasse 15% du PIB. Bon, c'est sympa de l'écrire, mais comme ça ne se fera pas, ça ne sert à rien. Donc il faut être pragmatique, il faut construire des petits pas acceptables pour tous et intelligents. Et il y a des réflexions, hein. Il y a des gens qui travaillent sur l'Erasmus de l'alternance, par exemple, hein. Faire circuler les gens qui sont dans les formations techniques. Il y a des gens qui travaillent sur l'indemnisation européenne du chômage, hein, qui est quand même un vrai sujet. Donc voilà, faisons des petits pas vers la solidarité. Mais le grand pas fédéraliste, c'est un rêve.
Non, ça se fera pas avec un grand pas. Mais il faut quand même de l'ambition. Sinon, ça ne tiendra pas. Voilà.
Merci à tous les trois pour vos éclairages. Benjamin Corial, ce qu'on vient d'entendre aux prises avec Jérôme Krill et Patrick Artus également. On passe à vos chiffres et on va commencer avec Claire Allais. Claire Allais, notre partenaire pour Alternatives économiques, et votre chiffre.
Bonjour à tous. Mon chiffre ce matin, c'est 960. 960 euros bruts, c'est le salaire que touchait Mathilde Ramadier, diplômée en art graphique et titulaire d'un master de philosophie contemporaine à l'ENS, pour un emploi au 4/5e dans une start-up berlinoise. Mathilde Ramadier est l'auteur d'un livre qui est paru ce jeudi aux éditions Premier Parallèle, intitulé « Bienvenue dans le nouveau monde, comment j'ai vécu la coulitude des start-up ». De son expérience dans une dizaine de start-up berlinoises, la Française tire un témoignage et une analyse des conditions de travail dans ce type d'entreprise. Âme craignant la désillusion, s'abstenir, car à travers ce livre, Mathilde Ramadier lève le voile sur un secteur économique et un univers professionnel qui bénéficie d'une image exagérément positive. Il n'existe pas de définition établie des start-up. Les jeunes pousses en français regroupent de jeunes et donc petites entreprises qui se positionnent sur l'innovation de rupture en bousculant un marché via les nouvelles technologies. Cette notion de rupture se retrouve non seulement dans le produit proposé, mais aussi au sein de l'organisation. Et c'est là que le regard de Mathilde Ramadier s'est glissé. Dans une start-up, il faut à tout prix se démarquer de la gestion et du management de l'entreprise à la papa. Cette rupture managériale passe d'abord par le langage. Dans les start-up, qu'elles soient berlinoises ou françaises, c'est l'anglais qui se glisse partout. Ainsi, après avoir passé le process du recrutement avec le people manager, le nouvel embauché reçoit son welcome kit et commence la phase d'onboarding où il va faire connaissance avec la team qui travaille sur le launch de l'appli. Au-delà de la caricature, cette novlangue des startups participe de ce que l'auteur nomme la coolitude des startups. On est polyglotte, ultra connecté, la hiérarchie de l'entreprise est plate et l'hypermotivation doit être le seul moteur de la présence dans l'open space. Mais pour Mathilde Ramadier, les mots sont aussi des masques enjoliveurs. Ainsi, chaque employé porte le titre de manager, même si presque aucun n'a de poste d'encadrement. Ces titres ronflants servent à dorer des emplois qui sont souvent très répétitifs et peu valorisants. Il le faut bien, puisque les candidats à ces postes sont pour la plupart surqualifiés. L'auteur dénonce aussi la précarité de l'emploi, contrat court, embauche en tant qu'indépendant, faible salaire. La flexibilité est le mot d'ordre de ce nouveau capitalisme sauvage propre aux start-up, écrit Mathilde Ramadier. Ces conditions de travail au rabais sont justifiées par les dirigeants, par le risque inhérent à leur activité, car les start-up évoluent sur un marché ultra compétitif. Seule une minorité d'entre elles parviennent à gagner de l'argent et une ultra minorité à faire des levées de fonds importantes. Pire, d'après le site 1001 Start-up, 90% des startups échouent en France. Il faut souffrir pour être in, ironise Mathilde Ramadier, qui se dit inquiète de voir se diffuser en France le même esprit et discours, puisque l'on parlait le langage, que dans les startups berlinoises. Bienvenue dans le Nouveau Monde, aux éditions Premier Parallèle, est un petit pavé dans la mare de la Sentier Vallée.
Merci beaucoup, Claire. Allez, très vite, allez, un chiffre. Jérôme Krill, qui n'a pas si souvent chez nous, on vous écoute.
500 000, c'est le nombre d'entrées en salle de Merci Patron, qui s'est vu décerner hier le César du meilleur documentaire. Et pour l'avoir vu, moi, je recommande à chacun d'y aller, d'y retourner éventuellement, parce que c'est une plongée dans le monde de l'industrie, le monde social, et c'est une bonne tranche de rigolade.
Assez réjouissant, en effet. Patrick Artus, très vite aussi.
Oui, 190 000, donc c'est les créations d'emplois en France. Et donc c'est extraordinaire, parce qu'avec 1% de croissance, on aurait dû détruire 80 000 emplois. Donc c'est quoi ? C'est les transports, c'est les restaurants, c'est les services à la personne. Donc c'est le mauvais côté des nouvelles technologies. 15% de ces emplois sont des chauffeurs de VTC.
Merci encore à tous les quatre. On va tout de suite enchaîner avec les informations. Je rappelle quand même par ici la sortie, Euro par ici la sortie chez Fayard de Patrick Artus et l'économie européenne au FCE. Et merci à notre équipe, Laetitia Coya avec Pierre Cotillon, Laurence Genepin, bien sûr, préparation, documentation.